Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, alors que s'achèvent ce soir les Jeux paralympiques de Paris, nous allons parler du handicap dans ce numéro. Ils ne sont pas nombreux les philosophes qui se penchent sur cette question, mais deux d'entre eux, et non des moindres, sont avec nous dans le magazine qui interroge celles et ceux qui pensent le monde. Nous sommes en effet en compagnie de Bertrand Cantin. Il est agrégé, docteur en philosophie, auteur notamment de l'essai qui s'intitule « Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap » dans lequel il écrit notamment ceci. S'agissant d'un sujet comme le handicap, la philosophie exige un savant équilibre entre l'information rigoureuse, l'empiricité, la prise en compte de la singularité et l'effort d'universalité. Nous sommes en compagnie également de Marion Chautin, philosophe elle aussi, co-auteur notamment de « L'aveugle et le philosophe » ou « Comment la cécité donne à penser », un ouvrage qu'elle a dirigé et a été publié en 2009 aux éditions de la Sorbonne. À quelques heures donc de la fin de ces Jeux, il m'a semblé utile, intéressant d'entendre les points de vue, les regards de ces deux spécialistes sur cette compétition qui a été un authentique succès populaire et d'entendre leurs réflexions sur les handicapés. J'utilise ce mot avec prudence car en la matière, le vocabulaire semble très important. Idée, un magazine dont vous pouvez écouter tous les numéros sur le site de la radio, l'application RFI Pure Radio ou bien en tapant RFI Idée sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Bertrand Cantin.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes, je l'ai dit, agrégé docteur en philosophie, maître de conférences à l'université Gustave Eiffel et vos recherches portent sur l'étude des apports de la vulnérabilité dans la compréhension de l'homme. Et donc, vous avez écrit ce livre, Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap, publié aux éditions RS. Quel regard portez-vous sur les Jeux qui s'achèvent, ces Jeux paralympiques, qui ont été un authentique succès populaire et on a tous été pris par la compétition, par les compétitions?
Alors j'ai d'abord un regard de spectateur. Je conçois que tout le monde ne regarde pas les sports paralympiques, mais par contre, moi j'ai été assez scotché par ces différentes épreuves. Avec mon fils de 6 ans et ma femme, on a assez régulièrement regardé les épreuves. Et c'est vrai qu'il y a une intensité dans ces différents sports, il y a une véritable compétition et il y a de l'adrénaline. Donc c'est quelque chose qui permet aussi de voir des corps différents, des corps étranges, des corps qui sont souvent invisibilisés dans la société actuelle, hein, puisque dans les médias, on voit assez peu souvent des corps handicapés. Et là, donc, en prime time, on voit un bras manquant, une jambe manquante, des êtres un peu cyborgs, hein, parfois. Et c'est donc une expérience vivifiante et je pense salutaire. Alors j'espère que ça ne va pas être une fenêtre pour Noël et qu'ensuite on la referme pour la suite des années. Voilà. C'est ouais. Donc on peut espérer qu'il y ait des conséquences en termes de déjà d'équipement. Hein, se rendre compte qu'il a fallu améliorer les équipements déjà pour l'accessibilité qui n'est pas toujours extraordinaire en France en général et à Paris en particulier.
Notamment pour le métro.
Voilà, le métro parisien est une catastrophe en termes d'accessibilité pour le handicap moteur, en tout cas. Je crois qu'on parle de 14% d'accessibilité du métro parisien, ce qui est vraiment ridicule. Mais alors, il était à 9%, je crois, en 2023.
Ah donc,
on a mis un peu le paquet, mais ça reste un peu faible. Donc, c'est ça qu'il faut effectivement améliorer. Et puis aussi, par rapport au sport, au handisport, qu'il y ait des équipements, qu'il y ait des entraîneurs, tout ça, ça s'organise. Hein. C'est une société inclusive, ça implique de l'organisation.
Bonjour Marion Chautin.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Vous êtes avec nous à distance, vous êtes vous aussi philosophe, chargé de recherche au CNRS, à l'IRIM, qui est l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités. Et vos sujets d'études portent sur le handicap, donc, et les Disability Studies. On peut dire un mot de ces Disability Studies?
Oui, tout à fait, d'autant plus que je viens de terminer un ouvrage d'introduction à ce champ de recherche anglo-saxon avec une collègue historienne, Corinne Doria. Donc en deux mots, les Disability Studies donc, sont les études de handicap anglo-saxonne, mais ce n'est pas parce qu'on travaille sur le handicap et que l'on écrit en langue anglaise, que l'on se situe dans ce courant de recherche. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ce champ de recherche possède une dimension critique affirmée et s'oppose à ce qu'il appelle le modèle individuel ou médical du handicap, que l'on peut d'ailleurs retrouver dans les Jeux paralympiques.
Vous êtes spécialiste notamment de la réflexion autour de la cécité et des aveugles dans l'histoire de la philosophie.
Oui, j'ai commencé mon travail en histoire de la philosophie moderne, mais sans m'intéresser spécialement au handicap ni à la cécité en particulier, puisque dans mes premiers travaux, la cécité était plutôt, pour les philosophes de la modernité, un prétexte pour penser d'autres choses, mais finalement, ils s'intéressaient assez peu aux personnes aveugles, et progressivement, j'en ai fait mon principal objet d'investigation.
Alors, même question que pour Bertrand Cantin, Marion, quel regard portez-vous sur ces Jeux paralympiques qui s'achèvent ?
Eh bien, j'ai moi aussi vécu des expériences très vivifiantes sur place, parce que j'ai assisté à plusieurs épreuves de goalball, de paratennis de table, mais un petit peu dans la lignée des disability studies dont je parlais, j'ai quand même un regard relativement critique sur cet événement sportif qui est pour moi extrêmement ambivalent.
C'est-à-dire,
j'y vois, disons, une facette positive, voire extrêmement positive, et deux autres facettes beaucoup plus problématiques. Donc, ce que je considère comme la facette positive, c'est que, selon moi, les Jeux paralympiques sont une véritable réfutation en acte du modèle caritatif du handicap. Donc le modèle caritatif du handicap, pour faire vite, consiste à voir les personnes handicapées comme essentiellement dépendantes, faibles, incapables, et de là, objet de secours charitable et de pitié. Or, c'est tout le contraire que les Jeux paralympiques donnent à voir, puisque sans même parler de performance, on voit des personnes qui réalisent des actions dont la plupart des personnes valides avant les Jeux paralympiques les jugeaient incapables, puisqu'on voit des personnes amputées qui nagent, qui courent, qui font du tir à l'arc, des personnes aveugles qui jouent au foot ou aux Jeux paralympiques d'hiver qui font du ski, etc. Donc ça, cela me semble fondamental, puisque les Jeux paralympiques, enfin je dirais plutôt le handisport, vient défaire cette association handicap-incapacité.
C'est votre première remarque. Il y en avait une deuxième ?
Oui, voilà, ça c'était l'aspect extrêmement positif, c'est-à-dire que les athlètes paralympiques font voler en éclat finalement l'association handicap-incapacité et ainsi l'opposition corps valide-capable, corps handicapé-incapable. Donc l'expression athlète handicapé, grâce au handisport, n'est plus un oxymore, un cercle carré. Et ça, c'est absolument fondamental. Cependant, ce que je considère comme une dimension beaucoup plus problématique, c'est que les Jeux paralympiques, et ça je suis loin d'être la seule à le souligner, ou du moins le discours qui entoure les Jeux paralympiques s'inscrit encore dans ce que l'on appelle le modèle individuel ou médical du handicap, c'est-à-dire qui considère que le handicap est une déficience inscrite dans l'individu, de l'ordre de la tragédie personnelle, et que grâce au sport, les athlètes ont surmonté, c'est le fameux récit du handicap surmonté, et ce récit-là est, selon moi, et selon de nombreux aussi paralympiens, paralympiennes, négatif, toxique, aussi bien finalement pour les personnes handicapées que pour les personnes dites valides.
Bertrand Quentin, que pensez-vous de ce que vient de dire Marion sur l'ambivalence de ces jeux, c'est-à-dire sortir d'un certain modèle de la personne handicapée, mais aussi colporter toujours une certaine image?
Oui, alors, je souscris tout à fait à ce que vient de dire Marion. Le modèle qui est un peu misérabiliste, qui considère le handicap comme quelque chose de nécessairement déplaisant, est remis en question par toute cette joie et tout ce plaisir que nous avons pu avoir durant les semaines écoulées. Mais en revanche, comme elle le dit très bien, ce modèle est quand même assez fixé sur l'individu. Alors évidemment, comme on est dans le domaine de la performance, hein, on a des individus avec des histoires de vie extraordinaires, des histoires d'efforts individuels. Et à trop porter sur l'individu, on a tendance à se dédouaner de la responsabilité collective. Donc c'est ça, c'est en cela qu'on est dans un modèle individuel, un modèle médical. C'est-à-dire que le handicap est lié à la déficience. Et ce sur quoi j'ai insisté aussi dans Les Invalidés, c'est que justement, le titre Les Invalidés, c'est que ce sont des personnes invalidées aussi par la société. Pas simplement invalides parce que leur corps serait mal fichu, mais aussi parce que la société n'investit pas ou ne s'organise pas pour que des choses assez simples puissent être faites. Là, on parlait tout à l'heure du métro. Le fait que 14% des lignes de métro soient accessibles au handicap moteur, ça veut dire clairement que la société produit du handicap et invalide ces individus. Donc ce genre d'investissement, c'est un choix politique. Donc on peut très bien avoir un discours grandiloquent pour dire devant tout le monde qu'on est très fiers de nos athlètes handicapés, mais il faut derrière aussi assurer, avoir de l'investissement pour que cette inclusion soit réellement possible. J'avais une petite référence assez drôle d'ailleurs, parce qu'en 1982, la RATP avait commandé une étude à la Sofres à propos des personnes handicapées dans les transports en commun. Et le prestataire qui avait interviewé des personnes handicapées avait catégorisé différents états d'esprit et isolé dans ses grilles d'analyse des profils utopistes. Les profils utopistes, alors il disait « leur comportement montre une fuite de l'individu dans l'imaginaire ». Le handicapé, donc là on était en 1982 et on parlait de le handicapé, se projette dans un discours où il s'imagine pareil aux autres, où il revendique que le monde environnant s'adapte à lui.
C'est dire le chemin parcouru quand même.
Oui, le chemin parcouru. Oui, bien sûr.
Je ne parle même pas de l'époque de la construction du métro parisien, 19e, début du 20e siècle, où là, on ne pensait pas du tout aux personnes en situation de handicap.
Alors, chemin parcouru en termes de langage, c'est déjà, on a compris normalement qu'on ne va pas substantiver. Vous posiez un peu la question au début en demandant si on pouvait parler des handicapés.
C'est au cœur de votre livre aussi.
Alors, parler des handicapés, ça a été assez courant parce que depuis le début du XXe siècle, c'était un peu le terme utilisé, des handicapés. Mais quand on dit des handicapés, on substantialise la caractéristique du handicap qui devrait être un adjectif. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faudrait au minimum parler de personnes handicapées et personnes en situation de handicap pour dire que l'environnement a un impact sur l'individu.
Suite de ce numéro d'idées consacré ce dimanche au handicap à l'occasion de la fin de ces Jeux paralympiques, en compagnie de nos deux invités, Marion Chautin et Bertrand Cantin, deux philosophes qui s'intéressent à cette question, je vous propose d'écouter un reportage de ces derniers jours effectué par la rédaction. Il s'agit ici d'un petit portrait de Riyad Salem. C'est un athlète qui a 53 ans. Et il fait partie de l'équipe de France de rugby fauteuil et il a fait de la reconnaissance du handisport le combat de sa vie. Laurence Théo l'a rencontré.
Lorsqu'il est debout sur ses prothèses articulées, Riyad Salem est un colosse. Ses longues dreadlocks renforcent sa stature. Pour jouer au rugby, Riyad enlève ses prothèses.
Mon fauteuil va remplacer mes jambes. Donc c'est un fauteuil qui est fait sur mesure. Au final, je suis plus handicapé debout que sur mon fauteuil.
Qui peut me faire le strap ?
Bandage des avant-bras, pression des pneus, l'athlète fait tourner les roues de son fauteuil à toute vitesse et le voilà sur le terrain. Riyad Salem est né sans jambes ni mains, mais avec un grand cœur, ce qui lui a permis de surmonter les peines et les obstacles.
Quand tu perds une partie de ton corps et que tu n'arrives pas à te projeter dans le futur, c'est violent quoi. Mais tu te dis, bon allez, je vais avancer à petits pas, et puis d'un seul coup, tu t'aperçois qu'au bout de quelques années, tu as fait trois fois le tour de la planète, quoi.
À 53 ans et 6 sélections aux Jeux paralympiques, Riyad a commencé par le basket fauteuil, puis s'était pris du rugby.
Ça a été un deuxième coup de foudre. Cet état d'esprit, cette camaraderie, il y a vraiment une culture dans le rugby qui est particulière, quoi.
Ces valeurs, le sportif de haut niveau les transmet aux plus jeunes en situation de handicap, comme lui.
Si ça permet à des gamins d'avoir la banane, d'avoir le sourire. Je suis là.
Il est là, Riyad Salem, et il sera bien là avec l'équipe de France dès ce vendredi pour son entrée dans la compétition.
La France qui est arrivée à la 5e place de la compétition. Il est intéressant ce reportage, d'abord sur le plan humain. Et lui dit, j'ai avancé à petits pas. Et je me suis aperçu qu'à force d'avancer à petits pas, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde. C'est un message très optimiste.
Oui, le handisport a permis à des personnes de découvrir la vie d'une façon très différente. Moi, je me rappelle d'une personne qui était en tennis fauteuil. Alors, avant d'être en tennis fauteuil, il jouait au tennis avec un niveau qui était correct, mais pas un très haut niveau. Et puis ensuite, il a eu un accident et le tennis fauteuil lui a permis de remonter la pente. Et il expliquait que, mais grâce à ses compétitions, il a pu aller à travers le monde, aller au Japon, aller aux États-Unis, ce qu'il n'aurait pas fait vraisemblablement s'il était resté valide. Donc c'est une expérience qui l'a valorisé et qu'il estimait éminemment positive. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'arriver à retirer cette... on parlait tout à l'heure de misérabilisme et de côté caritatif, modèle caritatif, arriver à retirer cette alliance permanente entre le handicap et la douleur, la souffrance, le malheur. Je veux dire, on peut être handicapé et heureux, tout comme les autres. Hein. On peut être aussi handicapé et malheureux, tout comme les autres. Mais en tout cas, c'est cette normalisation qui est importante pour le regard.
C'est aussi votre avis, Marion Chautin ?
Oui, je pense que... Avec Bertrand, on a des positions assez proches sur ces différents points. Je pense comme lui que les personnes handicapées sont des personnes invalidées par la société, socialement, culturellement, politiquement. Il l'a bien montré, rappelé tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, quand je parle de personnes handicapées, c'est exactement en ce sens-là que j'emploie le terme, non pas au sens de personnes porteuses de déficiences invalidantes selon l'opinion commune, mais au sens du participe passé du verbe handicapé, c'est-à-dire de personnes discriminées, marginalisées socialement, politiquement.
Bertrand Cantin, je soulignais au début que vous n'étiez pas si nombreux à vous intéresser à cette question du handicap, et cela m'a intrigué. Pour quelle raison ?
Bah, si on regarde l'histoire des idées, les grands penseurs de l'histoire des idées, Platon, Aristote, et puis on va jusqu'à Descartes, etc.
Platon qui aurait dit « la vie vaut-elle d'être vécue avec un corps en loque et en ruine ?»
Oui, c'est dans le Criton. Oui, alors Platon se trouve dans une société où les corps handicapés ne peuvent pas donner lieu à une participation sociale. On ne peut pas être citoyen, on ne peut pas être soldat, on ne peut pas... Donc ça limite les possibilités. Et donc il vit dans une société où on n'imagine pas des remédiations qui permettent à la personne handicapée de pouvoir être véritablement incluse. Et puis, s'ajoute à cela une angoisse que nous avons peut-être un peu perdue quand on est un peu cortiqué, mais c'est l'angoisse d'une dégénérescence de l'espèce et qui était prise très au sérieux. C'est-à-dire, on pensait que l'espèce humaine pouvait courir un danger face à des êtres qui ne présentaient pas corporellement les mêmes caractéristiques que les autres hommes. Donc un peu la peur du monstre. Et donc cette inquiétude-là, elle apparaît également chez les philosophes. Et les philosophes, en ce sens, ne sont pas au-dessus des autres citoyens d'Athènes. Ils participent à cette idéologie, pourrait-on dire. Et ils ne sont pas très intéressants finalement par rapport à cette question-là. Hein, ça montre en tout cas les limites, mais tout comme à Athènes au 5e siècle, on ne voit pas de problème à ce qu'il y ait des esclaves. Hein. Donc on est devant des problèmes sociétaux que même les philosophes peuvent ne pas avoir pensé, et pour des raisons, encore une fois, qui peuvent être liées à l'absence de remédiation imaginable. Nous vivons dans des sociétés maintenant où une personne qui a donc perdu les bras, les jambes, en étant correctement appareillée, peut vivre de manière tout à fait incluse dans la société, peut diriger une entreprise, peut être en lien avec le monde grâce à Internet, grâce au smartphone, etc. Donc on a des moyens de remédiation qui n'étaient pas envisageables à l'époque de Platon.
Bertrand Quentin, au cœur de votre livre, Les Invalidés, il y a la question de l'identité. Et vous citez à plusieurs reprises l'exemple et les études de Robert Murphy, qui est un prof d'anthropologie de l'Université de Columbia, qui a été lui-même atteint de handicap, et qui parle, par exemple, d'identité handicapée. Cette question de l'identité est une des grandes questions qui intéresse les philosophes par rapport à cette question du handicap.
Oui, c'est une question assez complexe, mais qui amène justement à se dire qu'il n'y a pas le handicap, mais il y a des handicaps qui peuvent être très différents. Et ce que je disais, c'est que dans l'histoire, certains handicaps que nous rejoignons à travers ce concept aujourd'hui n'avaient rien à voir. Hein, la folie ou le fait d'être estropié, ça n'avait rien à voir au XVIIe siècle. Donc nous regroupons les différentes catégories à travers ce terme de handicap. Alors est-ce qu'il y a une véritable identité ontologique de la personne handicapée? On peut peut-être en douter. En revanche, il y a un combat social qui peut être mené à travers différents handicaps qui, en s'entraidant, peuvent être reconnus. Mais vous remarquerez, par exemple, qu'on a beaucoup parlé pour les Jeux Olympiques de l'origine des Jeux Olympiques qui serait 1948, à Stoke Mandeville, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais je me faisais la réflexion qu'en 1924, vous aviez déjà les Jeux internationaux silencieux où tous les sourds du monde sont venus pour faire des compétitions internationales, et on pourrait dire que les premiers Jeux Olympiques, c'est 1924, sauf que les personnes sourdes ne participent pas aux Jeux paralympiques parce que, là encore une fois, il y a des questions d'organisation entre les fédérations, le nombre de sports n'étant pas le même, etc. Bon.
Vous parlez même dans votre livre, et c'est très surprenant, en tout cas pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le sujet, vous parlez des sourds et de la revendication identitaire des sourds.
Oui, alors là, ça vient du fait que les sourds ont une langue commune, enfin, au sein d'une certaine communauté, vous pouvez avoir une langue commune, et que cette langue donne accès à un univers qu'ils peuvent revendiquer comme univers commun, comme toute communauté linguistique peut revendiquer. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de handicap. On ne dit pas que vous avez une langue pour les personnes qui sont amputées des deux bras. Donc là, vous avez une spécificité. Et puis, au cours de l'histoire, il y a eu pour la communauté sourde, une solidarité qui s'est créée entre eux et un sentiment aussi d'ostracisme venant du reste de la société.
Est-ce qu'il y a, selon vous, Marion Chautin, une identité collective des personnes en situation de handicap ?
Alors, vaste question. Avant de vous répondre, je voudrais seulement ajouter à ce que Bertrand Quentin disait tout à l'heure au sujet de la philosophie du handicap, que aujourd'hui, Moi, pour ma part, je ne me considère pas comme une personne handicapée, notamment parce que je ne suis pas considérée comme telle, mais qu'il existe de nos jours plusieurs philosophes handicapés qui travaillent sur le handicap en France. C'est le cas d'Anne-Lise Chabert, de Charlotte Puiseux, de Stéphane Zigard, par exemple. Alors, sur la question de l'identité, là encore, finalement, je rejoins Bertrand Cantin dans la mesure où je dirais à la fois qu'il s'agit d'une identité construite et absolument pas ontologique. On s'en rend compte assez rapidement par le fait qu'il y ait très peu finalement de points communs du point de vue finalement du vécu corporel entre telle personne présentant tel type de différence et telle autre. Cependant, on a regroupé comme ça, et ça s'est fait essentiellement au XXe siècle, un certain nombre de personnes sous l'étiquette de personnes handicapées, et à partir de là, finalement, cette identité construite devient réelle dans la mesure où les personnes vont se mettre à partager des expériences communes d'exclusion, de marginalisation, de stigmatisation, mais aussi de lutte collective. Et de plus en plus, les personnes handicapées revendiquent finalement le handicap comme un élément de leur identité, sans qu'ils viennent pour autant les essentialiser. Et à ce titre, j'aimerais bien rappeler rapidement une anecdote pour rejoindre les Jeux paralympiques, en fait à propos du joueur de rugby fauteuil américain Mark Zupan, médaille d'or aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. Eh bien, Zupan raconte dans son livre qu'il reçoit beaucoup de compliments, mais qui en fait n'en sont pas, de personnes qui lui disent « Ah, vous jouez avec une telle intensité qu'on en oublie que vous êtes handicapé ». Donc, souvent, les gens pensent que c'est un compliment, finalement, d'effacer le handicap de l'identité de la personne, alors que c'est en réalité profondément validiste. Et voici ce que Mark Zupan écrit en réponse. « C'est comme dire que Denzel Washington est un si bon acteur qu'on oublie qu'il est noir ». Donc, de même que cette phrase serait évidemment profondément raciste, finalement, l'effacement du handicap est également très problématique et même validiste. Le handicap fait partie de l'identité, et ce n'est pas une insulte, c'est fait partie de l'identité avec d'autres éléments, il me semble-t-il, hein, des personnes handicapées.
C'est aussi votre avis, Bertrand Cantin. Vous étudiez dans ce livre notamment l'importance du regard, le regard qui peut constituer le handicap.
Oui, le vécu personnel d'une personne handicapée peut être radicalement différent du vécu d'une personne qui ne l'est pas et l'avoir forgé une certaine psychologie. Alors néanmoins, ce que j'aurais tendance quand même à craindre, c'est que quand on revendique trop l'identité handicapée, bah, quelque part, on s'éloigne de la condition humaine partagée. Parce que de la même façon qu'une personne handicapée est une personne avant d'être handicapée, et donc là j'insiste sur l'adjectivation du handicap, c'est pas faire du politiquement correct que de dire une personne handicapée, mais bien insister sur le fait qu'elle est d'abord une personne et que le handicap est une de ses caractéristiques, et que par ailleurs, elle peut être fan du PSG ou fan de l'OM. Hein, comme ça,
ah oui, attention, il faut choisir son camp. Hein.
Soigne de fan de l'OL et puis fan de Monaco, si l'on veut. Oui. Aimer le football, elle peut aimer la musique des Beatles ou aimer Brahms, donc c'est des caractéristiques qui se surajoutent, et ne pas faire comme si le handicap était la chose la plus fondamentale. Parce que si on se met à créer ce clivage entre le handicap, qui serait une caractéristique absolument centrale, et le reste, eh bien, on s'interdit de pouvoir vivre ensemble. Donc, c'est aussi un danger que nous courons.
Thank you.
suite de ce numéro d'idées consacré à la fin de ces Jeux paralympiques avec nos deux invités, Bertrand Quentin et Marion Chautin, je vous propose d'écouter un dernier reportage dans cette émission. C'est un reportage sur une classe qui, à l'occasion de la rentrée scolaire, là, il y a quelques jours, est allée voir un match de tennis fauteuil féminin à Roland-Garros dans le cadre, bien sûr, des Jeux paralympiques. Pierre-Olivier.
Dans les gradins du cours Langlaine, des centaines d'élèves du CP au CM2 vibrent au rythme d'un match de tennis fauteuil féminin.
Moi, je pensais que ça aurait été plus encadré, etc. Elle aurait pu beaucoup moins bouger, mais en fait, leur fauteuil, ils vont hyper vite et tout. Vraiment, elle est en fauteuil, elles vont plus vite que moi si je courais. C'est super impressionnant.
Même si on est handicapé, on peut quand même faire du tennis.
L'année dernière, leur enseignante les a sensibilisés au handisport et dès la reprise également.
Ce matin, le jour de la rentrée, on a revu un peu les règles qui étaient différentes du tennis. C'est l'histoire des sportifs en fait, qui est intéressante pour les enfants, de découvrir pourquoi est-ce qu'il est en fauteuil.
Mettre des mots sur les différents handicaps, et ce sont les enfants qui sensibilisent à leur tour les parents.
C'est même eux, nos enfants, qui nous ont dit « voilà les expressions à dire donc, en situation d'handicap et pas handicapé, donc j'arrête pas de faire la bêtise, je me fais reprendre tout le temps ».
Marie Barsac est directrice de l'Impact et de l'Héritage Paris 2024.
Afin de bénéficier de ces billets, il fallait avoir un projet autour de l'inclusion et donc bien souvent autour des parasports. Donc c'était l'occasion pour les enseignants de faire travailler les élèves autour de l'inclusion, leur faire découvrir les parasports dans un objectif de changer leur regard sur le handicap.
Au total, ce sont plus de 300 000 billets qui ont été offerts à l'éducation nationale pour ces Jeux paralympiques.
Marion Chautin, j'imagine que vous trouvez que cette initiative est très positive.
Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Hein, ça fait partie de la dimension extrêmement positive des Jeux paralympiques que j'ai mentionnée en premier. Et on retrouvait tout à fait cette idée dans les propos des enfants. Même si la personne est handicapée, elle peut faire du tennis. Et ça n'allait pas forcément de soi il y a quelques années. Encore. Ensuite, j'ai été amusée par la réflexion de la maman au sujet du vocabulaire qu'elle emploie quand elle se fait reprendre par ses enfants quand elle parle de personnes handicapées et qu'il faudrait dire personnes en situation de handicap. Alors qu'il existe, bien sûr, beaucoup plus de possibilités. Et finalement, l'important, c'est de savoir pourquoi on emploie telle ou telle expression. Puisque moi je parle comme je l'ai expliqué de personnes handicapées, mais pas du tout dans le sens habituel du terme. L'expression en situation de handicap correspond à un autre modèle du handicap, disons. Moi je m'inscris plutôt dans ce qu'on appelle le modèle social. En situation de handicap, l'expression revient à faire du handicap une situation. Donc plutôt le résultat de deux causalités distinctes, à la fois le corps ou l'esprit de la personne, ce qu'on appelle la déficience, et l'environnement. Donc il y aurait comme ça mismatch ou finalement manque de concordance entre les deux, et c'est ce manque de concordance finalement qui ferait obstacle et s'appellerait le handicap. Moi, je préfère parler de personnes handicapées, comme d'ailleurs beaucoup de personnes handicapées elles-mêmes, puisque cette expression « situation de handicap » tend à faire croire que le handicap est une situation de désavantage social très ponctuelle et liée uniquement à tel ou tel type d'accessibilité, alors que la plupart des personnes handicapées vous diront qu'elles sont handicapées, c'est-à-dire finalement exclues, marginalisées en permanence.
Bertrand Quentin, je reviens aux enfants, à l'importance de la nouvelle génération, des nouvelles générations. Vous racontez une anecdote touchante dans votre livre qui concerne une grand-mère qui découvre une amie de son petit-fils. Racontez-nous cette anecdote qui en dit long quand même.
Oui, alors il faut préciser que c'est une amie la grand-mère dont vous parlez, c'est une amie qui a travaillé dans le monde du handicap toute sa vie. Et elle avait entendu parler pendant toute l'année d'une bonne copine de sa petite fille. Elle était persuadée donc de la rencontrer à la fin de l'année. Et elle s'aperçoit que c'est une personne handicapée. Et alors elle dit à sa petite fille, mais tu ne m'as jamais dit qu'elle était handicapée. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que ça change ? Et donc, elle a pris dans la figure le fait que toute sa vie, elle incitait à ne pas avoir un regard qui grossisse le fait du handicap. Et puis là, elle-même, elle était prise au piège de cela. Pour rebondir un petit peu sur ce que dit aussi Marion, moi, ce que j'aime bien, c'est ce concept de la liminalité.
Il faut s'y attarder.
Oui, le concept de la liminalité. Alors, le mot a l'air compliqué. Étymologiquement, ça vient de limen en latin, qui veut dire le seuil. Et donc, la liminalité, qui est un concept qui, au début, est apparu en ethnologie. Hein, c'est Van Gennep qui, dans un livre sur les rites de passage, au début du XXe siècle, en 1909, montrait que dans les rites de passage dans les tribus, la personne n'était plus tout à fait à l'intérieur de la société, mais elle n'était pas exclue non plus, puisque le but du rite, c'était quand même de la réintégrer. Donc pendant une certaine période de temps, la personne était dans un entre-deux. Voilà. Et finalement, pour les personnes en situation de handicap, et Robert Murphy, que vous citiez tout à l'heure, a amené aussi cette réflexion-là, pour les personnes en situation de handicap, elles sont dans cette liminalité, c'est ni tout à fait incluse dans la société, ni tout à fait exclue. Être complètement exclu, c'est le racisme, c'est le nazisme. Donc ça a existé aussi dans certaines sociétés dictatoriales ou totalitaires. Mais en revanche, même dans nos sociétés, où nous avons souvent bonne conscience, elles ne sont pas véritablement incluses. Et il y a une sorte de paroi de verre qui les empêche de véritablement participer. Et j'y pensais avec ces Jeux paralympiques. Moi, j'aimerais voir un petit peu plus de journalistes qui ont un handicap visible. Alors, on en voit un tout petit peu maintenant, mais c'est quand même pas très fréquent. Donc, on voit beaucoup de personnes dites valides qui parlent en spécialiste des Jeux paralympiques. C'est quand même une manifestation de la liminalité qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui aient un handicap visible, qui puissent ainsi montrer tout simplement au grand public que quand on a un handicap, on vit au milieu des autres comme les autres.
Et pourquoi, Bertrand Cantat, faites-vous apparaître dans votre livre Tarzan ?
Oui, alors là, ça m'a amusé parce que j'étais tombé par hasard, mais vraiment tout à fait par hasard, sur les droits, la manière dont les droits du personnage Tarzan,
le droit à l'image,
au dessin, étaient autorisés. C'est-à-dire que lorsque vous avez créé un dessin, alors en l'occurrence, c'était Rice Burroughs, l'Américain, qui avait créé Tarzan en 1912, votre société, quand le personnage devient très célèbre, n'importe quel dessinateur dans le monde ne peut pas faire une bande dessinée avec un Tarzan comme il le souhaite. Et donc, il y a des droits. Et alors, j'étais tombé sur la manière dont Tarzan devait être représenté. Donc, c'est la société Riceboro qui dit « Tarzan ne doit pas être représenté manquant de respect à Dieu, ses attributs et pouvoirs, insensible à la sainteté du mariage, de la religion ou du foyer, bafouant la loi ou l'ordre ou les institutions qui constituent l'American Way of Life. Il ne doit pas être insensible au bien-être des autres, en particulier des femmes et des enfants. Il doit apparaître fort, énergique, bien rasé, en très bonne condition physique. Il ne doit pas être montré perdant la vie ou un membre ou souffrant d'un quelconque trouble physique ou mental. En même temps, il est interdit de faire de Tarzan un héros égoïste, avide ou cruel, ou se moquant des déformations mentales ou physiques des autres. » Alors, c'est un côté un peu désuet dans cette description-là, mais pendant des décennies, un dessinateur devait s'astreindre à présenter donc un Tarzan toujours bien rasé, en bonne condition physique. C'est ce à quoi nous avons été habitués. Et surtout, il y a le côté Tarzan ne doit pas se moquer des déformations mentales ou physiques des autres. Mais par contre, il ne faut surtout pas qu'il soit représenté à un moment ou un autre avec un trouble physique ou mental. Donc c'est ça la liminalité, c'est qu'on fait semblant d'inclure, mais c'est ce que Marion disait tout à l'heure avec le modèle caritatif. Il faut être accueillant avec ces personnes handicapées, mais en revanche, il ne faut pas être trop accueillant parce qu'il ne faut pas non plus qu'elles s'incluent dans la société.
Et vous parlez aussi dans ce livre d'un concept que je trouve très pertinent aussi, vous parlez de l'empathie égocentrée.
Oui, l'empathie égocentrée, c'est le fait qu'on a tous tendance à avoir de l'empathie pour des personnes que nous croisons. Empathie, c'est à se mettre à leur place. Et quand on est face à une personne handicapée, on se met à sa place. Sauf qu'on se met à sa place en partant de notre situation de valide. C'est en ce sens que notre empathie reste égocentrée. On voit une personne à qui il manque les deux bras, on se dit « ça serait horrible qu'on m'arrache les deux bras, donc je pense nécessairement ce handicap comme quelque chose d'horrible ». Et ce lien fort qui est fait, qui part au début d'une bonne intention, parce que se mettre à la place de l'autre, c'est très bien, mais il faudrait pouvoir se mettre à la place de l'autre en étant non pas égocentré, donc en écoutant davantage les personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'il faut aussi inviter des personnes en situation de handicap. Et puis, donc Marion parlait tout à l'heure d'Anne-Lise Chabert, de Charlotte Puiseux, qui sont des personnes très intéressantes et qui ont un discours très fort. Donc, arriver à écouter pour mieux comprendre et ne pas tomber dans cette empathie égocentrée qui nous amène systématiquement donc, à juger des personnes handicapées à leur place et à croire avoir du bon sens alors qu'elles ont une manière très différente, éventuellement, mais comme tout un chacun, de vivre leur vie.
Il faut en un mot, Marion Chautin, de l'empathie tout court.
Oui, peut-être que je nuancerai un peu ce point. Bon, une fois de plus, je suis navrée, je rejoins les analyses là de Bertrand Cantin et vraiment son beau concept d'empathie égocentrée, parce qu'il décrit très bien ce qui se passe lorsque finalement les personnes dites valides projettent sur les personnes handicapées, finalement, leur propre ressenti imaginaire. Et c'est encore le cas, il y a plusieurs enquêtes qui le montrent, qu'il y a une majorité de personnes dites valides, quand elles croisent une personne dite handicapée, eh bien, qu'est-ce qu'elles éprouvent comme sentiment en premier lieu ? De la compassion. C'est pour ça que je nuancerai tout un tout petit peu en disant que, je ne suis, en tout cas, ce qui faut pas éprouver, à mon avis, c'est justement cette compassion. Alors même que les personnes, je pense qu'elles étaient plutôt fières de leur réponse en répondant à cette enquête. Pourquoi ? Parce que la compassion, donc le fait de sentir, d'éprouver la souffrance ou les douleurs de l'autre, finalement présuppose qu'il y a souffrance et douleur. Et ça, on est complètement dans ce cas, dans le cadre de l'empathie égocentrée, de la projection. Ah là là, qu'est-ce que sa vie doit être horrible, comme je le plains. Et c'est ça le soubassement, finalement, c'est vraiment cette idée à déraciner, celle de la tragédie personnelle qui est au fondement, finalement, de l'héroïsation et même aussi de cette fameuse rhétorique de l'inspiration extrêmement obscène, finalement. C'est pourquoi, dans les Disability Studies, on parle de pornographie de l'inspiration. Et Emmanuel Macron a publié un mot, finalement, pendant la cérémonie d'ouverture, c'est ce mot d'inspiration. Pourquoi je parle d'obscénité ? Parce que dans ce cas, finalement, c'est parce qu'on imagine que le handicap est une tragédie personnelle qu'on va penser que le seul fait, finalement, d'être présent aux Jeux paralympiques ou dans la rue ou à tel poste socialement valorisé est héroïque. Et là, on dit, qu'est-ce que vous êtes inspirant ? Vous êtes pour moi une leçon de vie. Je trouve ça véritablement obscène, dans la mesure où ça revient à dire, mais comment faites-vous pour supporter la vie, une vie telle que la vôtre ? Quand je vous vois, je mesure ma chance, finalement, de ne pas être comme vous, de ne pas être handicapé, cela me redonne toute ma motivation. Je trouve ça extrêmement objectivant et insultant pour les personnes handicapées. Donc j'espère que les personnes comprendront finalement qu'il faut sortir absolument de cette rhétorique de l'inspiration.
Merci Marion Chautin. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, philosophe, chercheuse à l'IRIM notamment, l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans la Modernité. On peut se référer à ce site pour examiner tout ce que vous avez fait, lire ce que vous avez fait. Vous êtes co-auteur notamment de L'aveugle et le philosophe, ou comment la cécité donne à penser aux éditions de la Sorbonne. Merci Bertrand Cantin d'être venu également participer à cette émission. Vous avez écrit, vous, aux éditions RS, Les Invalidés, nouvelle réflexion philosophique sur le handicap. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.